Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Pendant un an et demi, Marie et sa sœur, élèves de première et terminale S au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, ainsi que leur mère, ont été sans logement. Elles ont dormi ou essayé de dormir dans la rue avec quelques pauses, dans des hébergements de fortune, hôtels à la nuit, hébergements précaires, solutions provisoires. Pendant plus de 6 mois, 2 autres lycéens et 4 lycéennes du même établissement n'avaient pas de logement non plus, dormant parfois dans un garage, une voiture, un abri-bus, désespérant de trouver une solution par le 115 ou une aide quelconque. Très vite, heureusement, dès la rentrée, les profs de ce lycée plutôt bien coté se sont mobilisés pour les aider, les nourrir, les loger, se cotiser. Mais était-ce bien leur rôle au fond ? Il y a quelques années, une enquête menée par l'Observatoire du SAMU social de Paris et citée par l'Humanité avait montré que la grande précarité laisse des traces profondes chez les mineurs. 20% des mineurs sans toit présenteraient des troubles de santé mentale et plus de 80% avaient un retard de développement. La malnutrition, qui touche la plupart de ces familles, entraîne chez ces enfants de nombreux cas d'anémie, de surpoids, voire d'obésité. Beaucoup de ces enfants risquent de développer une estime d'eux-mêmes dégradée avec du mal à envisager leur propre avenir. Tout de suite dans les pieds sur terre, Marie, Kaina et Ikram, 3 jeunes filles que nous avons rencontrées grâce au collectif des professeurs de ce lycée, chez l'une d'elles, Alice Morissette, sont pour l'instant d'excellentes élèves, sérieuses et motivées, avec de très bons, voire excellents résultats. Elles racontent leur histoire à Leïla Djitli, lycéen sans toit. Une émission diffusée pour la première fois le 8 février 2017. Et à la fin de cette émission, je vous donnerai des nouvelles de ces élèves qui vont tout de suite raconter leur histoire.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Marie, j'ai 18 ans. Je suis en terminale S et je viens du lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen. Alors, tout a commencé, c'était en première, l'année de première. C'était en fait, ma mère, elle avait un travail comme tout le monde, donc du coup, on était dans un logement de fonction. Et en fait, elle a été virée de son travail du jour au lendemain. Et donc, du moment qu'il n'y a plus de travail, elle ne peut plus payer. Et donc, du coup, on était obligés de quitter le logement. Et on nous donnait un délai de 3 mois pour quitter le logement.
Et vous étiez là depuis combien de temps ?
3 ans. C'était compliqué parce qu'on avait beaucoup d'affaires. Parce que tout ce qui était dans le logement, c'était ma mère qui avait tout acheté. Et ensuite, on a dû ramasser des affaires. Il y en a plein qu'on a jeté. Plein de trucs. Et... on a pris avec nous ce qu'on pouvait, en fait. Et le reste, on a laissé. Les lits, les armoires, tout, on ne pouvait pas prendre avec nous. Et le moment qu'on ramassait nos affaires, en fait, il y a un drame qui est arrivé. C'est-à-dire, ma mère, elle a eu des problèmes au dos et elle s'est fait opérer. Et ensuite, vu que sa santé, ça n'allait pas du tout, et vu qu'on allait se retrouver dans la rue, il y a une tante qui nous a pris pendant 11 mois, à peu près. Moi, ma sœur et ma mère, on était 3. Elle est déjà avec ses enfants et c'était pas du tout facile. Hein. On était 8 dans un logement social, hein. C'était comme ça. C'était pas grand, hein. C'était pas du tout grand, franchement. C'est-à-dire qu'il y avait que 2 chambres pour 8 personnes. Et moi et ma mère et ma soeur, on dormait dans le salon. Pendant 11 mois, j'ai dormi dans le canapé. C'était compliqué, mais après, je me disais que quand même, on est dans un logement au chaud et on dort pas dans la rue. Donc du coup, je me plaignais pas, en fait. Au début, c'était compliqué parce que j'avais un trajet qui était énorme. C'est-à-dire, tous les matins, je faisais 2 heures pour aller au lycée. De Grigny à Saint-Ouen, c'est 2 heures. Je me réveillais à 5 heures pour être à l'heure à 8 heures, en fait. C'est ça, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des problèmes de train ou pas. Il y avait des fois où je terminais tôt. Bah, j'allais à la bibliothèque, je faisais mes devoirs, ou je faisais tout au lycée. Et puis, je refais 2 heures pour rentrer. C'était comme ça. C'est très très compliqué parce que le programme il est hyper chargé. Il y a beaucoup beaucoup de révisions à faire. C'est vraiment énorme. Et il y avait des moments où je craquais, j'en pouvais plus. Je dormais pas du tout assez, c'était un calvaire. Et puis après, donc en novembre, en fait, tout a basculé, en fait, parce que la tante, elle nous a dit que elle était désolée, mais elle pouvait plus nous prendre parce que elle a trop de charges et elle est déjà avec ses enfants et c'est pas du tout possible. Elle avait vraiment des soucis aussi, donc du coup, avec nous en plus, surtout trois personnes, c'était pas du tout facile, hein. Et qu'il fallait qu'on quitte son logement. Mmh. Et donc, du coup, mais après, on l'a pas mal pris, en fait. On l'a compris parce que vu qu'elle nous a pris pendant 11 mois, c'est déjà assez. C'est beaucoup même, 11 mois. Et ce moment, je me disais, mais c'est quoi cette vie, en fait? C'est quand je vais sortir de ça? Et le pire, c'est quoi? Est-ce que ça arrive que l'année de mon bac? C'est pas du tout possible. Et donc, du coup, moi, je suis partie directement voir l'assistante sociale. J'ai dit, ça va plus du tout. La dame, elle nous a dit de quitter son logement ce soir. Et là, c'est un choc pour elle. Directement, on a réagi, en fait. On a commencé à appeler le 115. On a appelé plusieurs foyers d'hébergement, mais rien. Rien du tout. Donc, du coup, on a dormi 10 jours dans la rue. 10 jours. Il faisait hyper froid déjà. Ma mère, côté santé, ça va pas du tout. Depuis qu'elle s'est fait opérer, ça va pas. Et ma soeur, elle faisait des crises d'épilepsie aussi. Et il faisait trop trop froid, il y avait beaucoup de vent.
Et donc ta maman, ta soeur, vous êtes dans la rue avec quoi? Un petit sac?
Un petit sac avec nos écharpes, manteaux qu'on avait sur nous. Pas de brosse à dents, rien. Et on pouvait pas prendre les affaires avec nous en fait, parce qu'on les met où? C'est ça le problème, on les met où? Il y en a plein que j'ai abandonné, même mes cahiers, même il y en a, j'ai été obligée de les abandonner. 10 jours. Dans les arrêts de bus, dans les parkings, à la gare. En fait, on traîne dans tous les sens, en fait. On marche partout, on se dit, est-ce que ici c'est beau, est-ce que ici c'est pas bon. Dès qu'on trouvait un petit endroit où on pouvait se poser, on se posait là-bas et c'était impossible de fermer les yeux. Dans la rue, c'est pas du tout possible, franchement. Des fois, on regardait dans les parkings, là où il y avait des voitures, et on se posait entre deux voitures. On s'asseyait par terre et on reste comme ça, jusqu'au matin. Ou soit, des fois, on restait sur les bancs, et on restait l'une couchée sur l'autre, et attendre que le temps y passe. Et le matin, moi, je fais direction au lycée, parce que c'était le seul endroit où j'étais à l'abri. Donc, du coup, j'allais. Et vu que j'avais du soutien aussi au lycée, j'avais l'assistante sociale qui me faisait le petit déjeuner. Et il y avait dans le bureau de l'infirmière, j'avais une brosse à dents ou pour faire un peu de toilette en fait. C'était ça pendant 10 jours. Quand j'étais au lycée, j'essayais de le cacher le plus possible pour que personne ne remarque que j'ai des problèmes, en fait. Donc, du coup, je faisais semblant de m'amuser avec les gens, je rigole avec les gens. Mais après, quand c'est l'heure de quitter le lycée, là, c'est un choc pour moi. Je me dis, mais ce soir, je dors où, en fait? Je sors, en fait, je pars dans le vide, je marche dans le vide, je dors où? Et donc, du coup, ma mère, vu que moi, j'allais au lycée et que ma soeur aussi, elle allait au lycée, elle était la seule dehors à traîner. Elle marchait, elle prenait les trams, les métros, elle faisait le tour jusqu'au soir, on quitte le lycée. Et après, on se rejoignait pour aller à Sarcelles. Parce que, en fait, on appelait le 115 de Saint-Denis. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous prendre et qu'on devait appeler le 115 de Sarcelles. Parce que vu que j'avais déposé ma demande de séjour à Sarcelles, donc du coup, tous les jours, on était obligés de quitter Saint-Ouen pour aller à Sarcelles pour pouvoir appeler le 115. Et quand on arrivait, on les appelait, mais il n'y avait jamais de place. Jamais. On les appelait tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fait, j'avais l'impression que ça les touchait pas. Ils s'en fichaient, en fait. Derrière le téléphone, je me dis, mais en fait, eux, ils sont pas dans cette situation-là. Donc, du coup, eux, ils font juste leur travail, c'est tout. Et après, ils rentrent chez eux. Ils étaient même pressés de nous raccrocher, en fait. Parce qu'ils nous disaient, ouais, demandez à l'église de vous prendre. Ou sonnez chez quelqu'un pour qu'il vous ouvre son bâtiment et que vous dormez dans les escaliers. C'était toujours des réponses négatives. Toujours. Ma mère a raconté tout. J'ai deux filles, ils passent le bac cette année. On est trois femmes dans la rue, on peut se faire agresser. Elle leur disait tout son possible, tout, tout. Mais il n'y avait jamais rien. La situation, ça l'a tellement choquée, traumatisée, sur le moment qu'elle ne parlait plus, en fait. Même quand on lui parlait, elle ne répondait plus. Elle était complètement traumatisée, en fait. Elle nous regardait, mais elle ne parlait pas. En fait, elle n'avait plus de mots. Ouais. C'est ça, en fait. Elle n'avait plus de mots, elle ne savait plus quoi dire. Ma petite sœur, c'était compliqué de la raisonner parce qu'elle, elle se disait, je vais me suicider, je vais me suicider. Je ne peux plus de cette vie, je ne peux plus de cette situation, j'en peux plus. On avait peur qu'elle fasse une connerie et que c'est encore pire, quoi. Mais je la surveillais tout le temps, en fait. Tout le temps. Et bah, je restais sur son dos, en fait. Quand j'ai prévenu l'assistante sociale, en fait, elle a eu le déclic, c'était pas possible. Et je lui expliquais tout, et elle voulait savoir comment j'allais tous les jours.
Donc c'est l'assistante sociale du lycée, hein?
Oui. J'avais du soutien, en fait, et dès que j'avais du temps, j'allais la voir.
Donc son bureau était ouvert pour toi tout le
temps? Oui, tout le temps. Ça me permettait de ne pas craquer, en fait, de tout lâcher et tout. À un moment, c'était pas possible, je voulais même abandonner les études. Mais elle m'a beaucoup raisonné, en fait. Et donc, du coup, je me dis, bah, je vais pas baisser les bras. J'avais mes copines aussi, en fait. En fait, ils ont eu des réactions, ça m'a vraiment touchée de ouf, parce que j'avais des copines qui me ramenaient à manger pour le soir, pour ma famille et moi. C'est grâce à eux qu'on pouvait manger le soir. J'avais une copine, elle était toujours déterminée, toujours, toujours, toujours. Elle me ramenait des sandwichs, des boissons, des jus, tout ce qu'elle pouvait me rapporter, elle me ramenait. C'est pas du tout possible. Elle dit non, c'est pas possible, tu peux pas rester dans la faim. Et il y avait l'assistante sociale aussi qui me ramenait à manger tous les soirs. Et si elle pouvait même me donner de l'argent, elle me donnait de l'argent. Il y avait beaucoup de solidarité, parce qu'on mangeait quand même. On mangeait et on restait pas dans notre faim, en fait. C'est ça, parce que même le matin, quand j'arrivais en cours, j'avais à manger, en fait.
Comment tu faisais pour te changer, comment tu t'organisais?
Je me changeais pas, en fait. Parce que j'avais presque plus rien, j'avais pas de vêtements, rien du tout. Ça a commencé à se remarquer, en fait, parce que tous les jours, j'avais les mêmes vêtements, j'étais pas lavée, et c'était pas du tout facile à gérer. Et quand les professeurs ils ont été courants, il y en a même qui m'ont ramené des vêtements.
Et ta journée de cours, ça se passait comment?
C'était dur parce que ça m'arrivait de dormir. Mais les professeurs même voyaient que s'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que moi d'habitude en cours je suis pas comme ça. Je travaillais, je suivais les cours, c'était pas comme ça. Et ils ont tous remarqué que j'étais fatiguée, ça allait pas du tout, j'arrivais pas à gérer. Mais après, vu qu'il y avait toujours des gens sur qui je pouvais compter, ils me prenaient les cours, ils me notaient tous les jours les cours et tout, pour que je lâche pas, parce que je peux pas me permettre de rater cette année mon bac. C'est pas parce que j'ai des problèmes comme ça que je vais me dire non, je lâche tout, j'abandonne tout. Non, c'est pas possible, je veux pas rater mon bac. Moi, je veux avoir mon bac. Pour que je reste positif dans ma tête, je me dis, mais en fait, il y a des gens encore pires que moi. Il y a des gens, tous les jours, ils dorment dans la rue, comme nous, en fait, et eux, ils ont pas de solution. Ils font ça des années, et je me dis, j'ai la chance, moi, qu'il y a mes professeurs, qu'il y a tous ces gens-là qui me soutiennent. Donc, du coup, je me dis, au moins, leur montrer que malgré que je suis dans cette situation, eh ben, je peux continuer mes études et avoir mon bac. Dès qu'on a le temps libre, je vais avec ma classe, on va à la bibliothèque, on travaille ensemble. Si je n'ai pas compris des choses, je leur demande, ils m'expliquent. Et voilà, en fait, il y a une solidarité entre nous, en fait.
Et qu'est-ce que tu veux faire après ton bac, alors?
Ingénieur de contrôle aérien. J'aime beaucoup ce métier-là. C'est un service de contrôle, en fait, pour les avions, les décollages. Ils communiquent avec les pilotes aussi. Dès que j'ai vu ce métier, je me suis dit, oh, ce métier, je veux le faire. Je veux le faire, ce métier. Mais après, voilà, je ne sais pas si j'ai le niveau ou pas, mais j'aime beaucoup.
Personne t'a proposé ou de dormir dans le lycée, par exemple?
Non, pas dans le lycée. Mais j'ai dormi chez des professeurs. Il y a des professeurs qui nous prenaient chez eux. Quand en fait, la science sociale, elle n'était pas bien. C'était tellement compliqué pour elle que elle a alerté les professeurs. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire des récoltes d'argent entre profs. Et ce soir même-là, ils nous ont pris à l'hôtel. Ils nous ont payé l'hôtel et ce moment, ça a été un soulagement. J'ai eu un choc de ouf, en fait. J'en revenais pas. Je me dis, mais je vais dormir dans le chaud. C'est à partir de ce moment-là qu'on ne s'est plus retrouvé dans la rue. On a commencé à faire hôtel, hôtel, hôtel. Et ensuite, il y a ma professeure qui avait un ami, qui avait un appartement qui louait à des touristes. Donc du coup, elle lui en a parlé. Et il nous a pris dans son appartement pendant 2 semaines sans payer. Et ensuite, vu qu'il n'y avait pas de solution après ces 2 semaines-là, les professeurs lui ont payé pour qu'on puisse rester dans l'appartement jusqu'au 28 décembre. Donc on est resté pendant un mois, jusqu'au 28 décembre. Et ensuite, ils ont encore cherché une autre solution. Il y avait une dame aussi qui partait en voyage pendant 2 mois, qui nous a proposé de nous prendre dans son appartement et les professeurs pouvaient payer les charges qu'il y avait. Et voilà, jusqu'à maintenant, on est dans cet appartement-là jusqu'au 21 février. Et vu qu'il y a une manifestation qui a été organisée par les professeurs, ça fait 2 semaines, voilà, il y a le 115 qui nous a réappelé pour nous proposer une chambre d'hôtel le 21 février. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Quand je repense des fois à ces 10 jours, ça m'a vraiment marqué. Toute ma vie, je vais penser à ça, en fait. Toute ma vie. Il faut que les gens ils comprennent que du jour au lendemain, tout peut basculer, en fait. C'est pas parce que vous êtes dans un logement ou quoi que ce soit que ça va aller, oh, je n'aurai pas de problème. Du jour au lendemain, tout peut basculer et on peut se retrouver dans la rue. N'importe qui peut se retrouver dans la rue. Il y a 7 élèves dans le lycée qui dorment dans la rue, qui sont dans ces situations-là. Et là, qui dépendent du 115. Tous. On est 7.
Vous êtes combien dans cette classe de terminale,
S? On est 28.
Et vous êtes très soudés entre vous, très solidaires?
C'est ça, en fait. C'est mon histoire. Ça a déclenché quelque chose dans la classe, en fait. Il y a une solidarité de ouf. Pour moi... Après tout ce que ces profs ils ont fait pour moi, mon lycée Auguste Bancu, c'est comme si c'était ma maison en fait. C'est devenu tout pour moi en fait. Je ne perds pas espoir. Et je ne vais pas rester comme ça toute ma vie aussi. Donc du coup, je garde le sourire. Je reste toujours positif. Et il n'y a pas des moments où je panique en fait. Parce que tout ce monde qui est derrière moi, tout ce monde qui me soutient, c'est vraiment beaucoup pour moi. Et ça me donne le courage en fait d'avancer encore plus.
Je m'appelle Kaina, j'ai 18 ans, je suis dans un lycée à Saint-Ouen, Auguste Blanqui, et je suis en première S.
Je suis la petite sœur de Kaina, je suis au même lycée qu'elle, de Saint-Ouen.
En fait, cette période difficile elle a commencé depuis qu'on a quitté le logement de notre cousine. Ça fait 1 an et demi. On s'est retrouvés à la rue, on avait nos sacs et nos affaires, c'est tout. Les premiers temps, en fait, le 115 n'est pas stable. Il nous change d'hôtel chaque 3 jours, 4 jours. Donc, c'était vraiment instable. Et des fois, on reste dans les abris de bus, dans les parcs pendant l'été, pendant l'hiver. Donc, pour essayer d'accéder à la connexion, on reste dans les centres commerciaux, quoi. Parce qu'il y a du wifi gratuit.
On essaie de trouver un endroit où c'est calme, il n'y a pas des voyous ou des personnes.
Ouais,
on a toujours peur et on ne sait pas est-ce que demain on sera dans un abri ou à la rue. On se soutient pour passer la nuit. Après le jour, c'est le lycée. Après, ça va un peu. C'est le seul endroit où on peut rester au chaud dans la classe et avec des camarades.
En fait, le lycée, c'est le seul abri pour nous.
Voilà. passer dehors.
En plus, il faisait très froid. Donc, j'ai jamais vécu ça, mais c'était vraiment... C'est des moments très difficiles. Le 115 nous envoie un message chaque semaine, donc il nous héberge pendant une semaine. Après, on ne sait pas est-ce qu'il va accepter de nous héberger encore ou pas.
En plus, même les hôtels, des fois, il n'y a pas de sanitaire, et il n'y a pas de l'EGN, et il y a plein de punaises. Il y a des toilettes collectives et rien n'est propre, en fait.
Donc là, vous êtes hébergé pendant combien de temps?
Jusqu'au 16 février.
Après, on va attendre l'autre SMS et ça dépend.
Est-ce que tu en parles en classe?
Non, j'en parle pas. J'ai pas envie que les autres savent.
Parce que la dernière fois, d'ailleurs, ils ont entendu te parler de la manifestation et qu'il y avait des élèves sans abri. Ils ont commencé à rigoler devant moi. Ils étaient en train de parler de la manifestation de ces élèves sans abri. Ils étaient en train de dire SDF, MDR. C'est mort de rire, quoi. Donc, c'est touchant. En plus, ils ne savaient pas que je fais partie de ces élèves. C'est pour ça que ça m'a complexé et ça m'a vexé aussi. Donc, j'ai rien dit. Je suis obligée d'être comme ça, en fait. Triste. Donc, je fréquente pas beaucoup les gens. C'est vrai, des fois, je suis vraiment réservée à cause de ça. Des fois, on a le sentiment qu'on a une double vie. Donc c'est vraiment dur. En plus de ça, on sait que chaque matin on doit y aller au lycée et être vraiment concentré pendant les cours et tout.
Parce que le matin on est dans le lycée et déjà on n'arrive pas à se concentrer pendant les cours, on est fatigué et ça joue un grand rôle sur la scolarité en fait. Même on peut même pas réviser à la maison et tout.
Des fois, j'essaye de faire le maximum de mes DM dans les CDI. Ils me demandent pourquoi tu fais tout ça là et pourquoi tu le fais pas chez toi. Mais je peux pas dire ça.
Mais quand même, on travaille. On a des bons résultats. Mon moyenne générale du premier trimestre est 17. J'essaie de faire le maximum et de travailler.
Et Kaina, toi, plutôt littéraire?
Oui, moi aussi. En fait, je préfère les matières scientifiques. D'ailleurs, l'année passée, j'avais 19 de moyenne en maths. Même en physique ou en SVT, j'étais vraiment bonne. Donc, j'ai passé mon bac de français et je l'ai réussi. J'ai eu un 12 sur 16. C'était le commentaire composé où j'ai bien travaillé. J'avais 11 dans l'écrit. Et mon bac d'oral, j'ai eu un 14. Donc, ma prof, déjà, elle m'a félicité, moi et l'autre élève, parce qu'on était les seuls qui ont eu la moyenne. Par contre, je suis en France depuis un an et demi, donc je parlais pas français avant. Parce que depuis mon arrivée en France, j'ai lu beaucoup de romans, donc de Zola, d'Honoré de Balzac, il y a Victor Hugo. Donc après, on n'a pas le choix. On peut rien faire que d'essayer de réussir nos études et de travailler, quoi.
Qu'est-ce que tu veux faire comme métier?
Médecine. Et je vais choisir la spécialité de la pitasserie. Parce que j'adore les enfants, en fait.
Et toi?
Je sais pas, entre pilote d'avion et chirurgien. C'est un peu trop, mais... D'un côté, j'aime la science, et d'un côté aussi, j'aime le voyage et la découvrir des pays et tout. Voilà.
Jumps to 2 feet, creep up the road. Two photo to record me, lumps and war. They advance as does his chance. So high from the League of Lands, mine is a watery. minutes distance. From medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 yards from his leg, from Utah. Sprayed you into my eyes.
C'était Lycéen sans toi, un reportage de Leïla Djitli, réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Marie, à sa sœur et à sa mère, à Kaina et à Ikram. Depuis la première diffusion de ce reportage en février 2017, je voudrais vous donner quelques nouvelles de ces jeunes filles. Marie et sa sœur ont eu leur bac avec mention et elles sont toutes les deux logées maintenant en résidence sociale. Kaina, elle a eu son bac S également avec mention. Elle est en prépa, en maths sup. Quant à la petite sœur, sa petite sœur Ikram, elle est en terminale S. Elle a 18 de moyenne générale et c'est juste la meilleure du lycée. Toutes les deux vivent encore dans un hôtel au mois payé par le SAMU. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Nino Lima, notre stagiaire. Je dois vous dire, j'allais oublier qu'à la suite de l'émission que nous avions faite en 2017, l'association du lycée a reçu de nombreux dons d'auditeurs, dont nous vous remercions, qui ont permis de soutenir largement les élèves en difficulté.